నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
శ్రీల ప్రభుపాద కీ
జై.
Alors, c'est ça, page 142, ligne 31. Est-ce que Virginie, tu voudrais lire?
Je suis en train d'essayer d'ouvrir et il ne veut pas m'ouvrir. Là. Donc,
Bon,
je suis
alors,
en train de...
on va demander à Nanda, alors.
Je prendrai le relais après, le temps que je l'ouvre.
Ouais.
Alors, rencontrer un pur bhakta est une façon de parler dans une certaine mesure. À défaut d'une rencontre physique, comme c'est le cas la majorité du temps par la majorité des gens, cela veut dire écouter, écouter, écouter les enseignements du pur bhakta. C'est l'écoute qui fait toute la différence s'il y a un contact, rencontre, association ou pas. Par la suite, il ne reste plus qu'à constamment méditer sur lui, boire régulièrement le nectar de ses enseignements avec un intérêt croissant, voir coûte que coûte, et apprendre ainsi tout ce qu'il peut nous offrir comme enseignement. À la fin, on peut fermement décider de marcher droit dans ses traces. Si tel n'est pas le but désiré ni le résultat obtenu, quelqu'un pourrait dire à quoi tout cela aurait-il servi. Même à ça, on ne peut pas faire preuve d'intransigeance face à un sincère aspirant qui aurait malgré tout des faiblesses. Pardon. Si tel est le cas, à moins d'être une âme très avancée en matière de spiritualité, reprenant son parcours passé, par une grande majorité des individus ce sera le cas, quelle solution pourrait-il y avoir? Celle de Chaitanya Mahaprabhu, c'est-à-dire le chant constant des saints noms et le temps, le temps, le temps. Chanter tout le temps. Le temps est indissociable du processus de purification prescrit de la bhakti. Le Seigneur Chaitanya disait « Kirtaniya Sada Hari Sikshaktaka 3 » Il faut chanter continuellement les saints noms. Le temps est Krishna. Le temps est Krishna présent dans le cœur qui guide et conseille toute âme sincère. Le temps peut être gaspillé ou être à son meilleur. Le temps de servir corps et âme, le maître spirituel authentique. Le temps n'est en fait que pour ça en ce qui concerne tout disciple. Encore une fois, le temps, il faut consacrer tout son temps pour guérir de la maladie de l'existence matérielle. Il faut être sincère, démontrer un enthousiasme et une patience à toute épreuve, advenait-il même quelques retards. Avec une telle attitude, tous les espoirs sont permis en s'en remettant à la grâce divine de Krishna et de son digne représentant. Les efforts individuels ne suffisent pas à eux seuls. Il faut la grâce de Guru et de Krishna pour couronner le tout de succès. La grâce divine passe par le médium transparent qu'est le maître spirituel. C'est pourquoi le maître spirituel est appelé sa divine grâce, car il transmet rien d'autre que la grâce de Krishna. Quand le maître spirituel est satisfait du disciple, Krishna l'est aussi. Les deux vont de pair. Tout est donc question de suivre Guru, Sadhu et Sastra, pas juste en théorie mais en pratique. Telle est la voie de la purification qui fera en sorte d'être affranchi des pièges autrement omniprésents de l'énergie illusoire. Tel que Krishna le dit si bien dans la Bhagavad Gita 7.14, il est très difficile de surmonter cette divine énergie que constituent les trois gunas, mais qui s'abandonne à moi en triomphe aisément. Par conséquence d'abandon à Krishna, le spectacle d'illusion est laissé en continu à sa besogne et ne demeure que toléré à distance, en mode détaché sans plus, sans désir aucun d'y être mêlé de nouveau. Le goût n'y est plus. Le combat des tentations est terminé. L'âme est en paix car elle a décidé d'engager ses sens au service de leur propriétaire de juste droit. Le chapitre de la paix d'esprit s'ouvre en toute sagesse et gratitude. Rien n'y fut acquis sans effort de prière, d'indulgence répétée. Le tout en parfaite conscience que pareille réalisation n'ait pu aboutir que par grâce divine avec le temps. Le temps est important, tellement important pour tout dévot persévérant. Pour tel dévot, consacrant toute proportion garder son... Pour tel dévot consacrant toute proportion garder son temps à Krishna, le temps est toujours favorable au progrès de sa conscience de Krishna. Comme tel, un dévot est toujours en paix, peu importe la situation, car il se veut une âme soumise au Seigneur en toutes circonstances. Finalement, nous ajoutons que l'association des bhaktas assemblés pratiquant la conscience de Krishna est aussi essentielle. Les bhaktas, même néophytes, qui pratiquent les principes régulateurs assidûment, sont à considérer aussi, eux aussi, comme des purs bhaktas. Leur présence a pouvoir de nous rendre conscients de Krishna sur le champ.
Jai, merci beaucoup.
Jai.
Allez, allez, bon. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est assez chargé, non?
Oui. Ben, juste qu'en fait, il est bien expliqué qu'on a le choix. On a le choix de choisir de ce qu'on fait de son temps qui nous est imparti. Et faut choisir de le rendre profitable au développement et au service à Krishna.
Oui, on a le choix. Et pour faire le bon choix, il y a, si on peut dire, un élément, soit singulier, soit pluriel, ça dépend de l'individu, là, mais ça peut être autant l'un que l'autre, singulier ou pluriel. Ça demande la foi, oui, ça c'est une chose, mais un élément qui est très important, c'est la conviction. Prabhupada, une fois, avait demandé une réunion de ses dévots JBC, et il leur avait posé la question. En anglais, il avait dit, Are you convinced? Est-ce que vous êtes convaincu? Et là, je me souviens pas du contexte, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Mais quand même, Prabhupada a fait le point. Parce que la conscience de Krishna, c'est une chose, en théorie. Mais dans la pratique, ça devient quelque chose qui tourne autour d'une conviction. Et si on a la conviction de la conscience de Krishna, pratiquement parlant, il n'y a rien qui va nous faire dévier. Dans les années 70, disons, il y a des tentatives d'enlèvement de dévots du mouvement. C'est-à-dire que quelqu'un veut enlever un dévot du mouvement et pas le mouvement qui enlève le dévot, justement parce qu'il pensait que c'était ça, là. Mais c'est le contraire. Et des fois, la majorité des dévots, ça n'est pas arrivé à eux autres, là. Mais dans certains cas, des parents sont allés, disons, aussi loin qu'eux de faire enlever leur fils ou leur fille pour justement faire en sorte qu'ils ne croient plus à la conscience de Krishna. Disons croire, là, c'est un mot général, qu'ils n'acceptent plus d'être conscients de Krishna. Et mission impossible. C'est mission impossible parce qu'une fois que quelqu'un, peu importe le niveau spirituel où il est, là, à moins d'être assez ancré dans le matérialisme. Mais en général, quelqu'un qui commence à la conscience de Krishna, ce n'est pas par hasard. C'est le fruit d'un passé qui fait qu'il s'est mérité dans la vie présente l'opportunité de rencontrer les dévots, rencontrer un pur dévot, recevoir les enseignements d'un pur dévot et changer sa vie, tourner sa vie de matériel à spirituel. Tout ça, c'est pas par hasard, ça. Parce que Krishna, quelque part, donne sa miséricorde et le maître spirituel aussi donne sa miséricorde. Et puis, par l'arrangement de Krishna, quelqu'un devient graduellement un dévot de Krishna. Alors, une fois que le dévot est assez, assez convaincu, encore le même mot, de la conscience de Krishna, son progrès va être constant et le dévot va être heureux parce que Disons, qu'est-ce qui peut détruire la conviction d'un dévot? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi la réponse?
Manque de connaissances.
OK. Mettons, on met un jeton dans la balance. Est-ce qu'il y a d'autres jetons qu'on peut mettre dans la balance? Mais si on prend ton argument, justement, manque de connaissances, on va regarder, voir qu'est-ce que la connaissance, de son côté, accomplit.
Te fait voir la vérité. La connaissance, quand tu arrives au fond de la connaissance, tu vois que tout, c'est l'énergie de Dieu. Tu t'abandonnes à ça. C'est la connaissance qui t'amène là. Ça veut dire, comment on peut motiver notre vouloir de rester dans ça? Tout ça, la connaissance, c'est comme Prabhupada disait, quand t'aimes quelqu'un, tu vas tout faire les pas, mais pour l'aimer, faut que tu ailles des atouts, tu sais, qui vont t'approcher. Alors la connaissance de Dieu va t'amener à t'abandonner, je veux dire, puis à motiver dans cette ligne parce que tu vois qu'il n'y a rien d'autre.
D'accord. Un très bon point. Très bon point. Mais, disons, la connaissance peut servir à quelque chose aussi. Tu as obtenu la connaissance de Krishna, par exemple. On donne un exemple, là. Juste l'aspect de connaissance de la forme de Krishna. Alors, la connaissance va nous permettre, connaissance spirituelle, évidemment, va nous permettre de connaître la forme de Krishna. Bon, mais qu'est-ce qu'il a l'air, Krishna? Il est de teinte bleutée. Il est trois fois courbé. Et puis, on l'appelle l'infiniment fascinant parce qu'il y a toutes les opulences. Et donc, parmi ces opulences, ces perfections, il y a la beauté. Il n'est pas plus beau que la forme de Krishna. Bon, ça, c'est un genre de connaissance qui est, disons, si on peut dire, agréable à avoir et qui montre pas non plus une autre facette de la connaissance que Krishna décrit dans la Bhagavad Gita. Alors, quelle autre facette à la connaissance il y a que Krishna démontre, Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita? On va creuser le problème un petit peu. Quelle était la cause du refus d'Arjuna de combattre?
C'est qu'il était confus, il était plongé dans l'illusion.
Oui, mais ça, plonger dans l'illusion, ça se traduit, ça veut dire quoi? Donc, si on est en mathématiques, là, on va dire énoncer. Plonger dans l'illusion égale.
Les attachements.
Attachement.
Attaché.
Ça, c'est une chose. On met un autre égal.
Soumis à ses sens?
Pardon?
Soumis à ses sens?
Disons, dans le cas d'Arjuna, il faut creuser pas mal pour dire qu'il est soumis à ses sens.
Non, mais oui.
Identification.
Oui, ça fait partie d'une certaine façon du problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'il dit « Non, je ne vais pas combattre. »
Ben, il donnait des valeurs à des choses de l'autre côté que un jour ou l'autre vont toutes disparaître, mais il donnait des valeurs, des oncles, de la famille et tout ça. Avec Dieu. Il voulait pas battre contre ça.
D'accord, mais ça veut dire quoi, ça? C'est à cause de quoi?
Les attachements. L'identification.
Attachement, identification, mais ça a causé quoi?
Qu'il a manqué à son devoir.
L'émotion.
Oui.
L'intelligence selon les trois Vedas, manqué à son devoir.
Krishna dit de combattre. Krishna est là en personne. Et si Krishna a juste un mot à dire, il dit à Arjuna, combat. Et Arjuna répond, Non, je ne combattrai pas. C'est quoi le problème? Et on sait, parce qu'on est des dévots de Krishna, qui ont lu la Bhagavad Gita plus d'une fois, que Arjuna n'aurait pas dû refuser. Puis c'était quoi donc son problème? Ça aussi, on est supposé le savoir.
C'est pas abandonné complètement?
Ça revient au même, ça.
Un des gros problèmes, c'est qu'il s'identifie avec tout, avec le corps. Il voit les attachements, on va dire. Puis il fait pas la volonté de Krishna. C'est sa volonté.
Oui, mais tout ça, c'est égal à, notre formule mathématique. Égal à. Les doutes. Arjuna a des doutes. Ouais. Il ne devrait pas douter de l'instruction de Krishna.
Okay.
Mais il se permet de douter. Et ces doutes-là font en sorte qu'il refuse de combattre. Comme par exemple, si vous étiez en personne en face de Srila Prabhupada, Srila Prabhupada vous dit personnellement de faire quelque chose, puis là vous dites non, je vais pas le faire. Ça veut dire vous doutez dans une façon ou d'une autre de l'instruction. Je la fais ou je la fais pas? Je pense que je vais pas la faire. Mais ça, c'est un foutu doute qui est de trop dans la vie spirituelle. Alors, quand on va à la fin de la Bhagavad Gita, dans le chapitre 18, où finalement Arjuna dit que son illusion est terminée, bien, Krishna va lui ramener sous le nez et lui dire, est-ce que maintenant tous tes doutes sont terminés?
Mm-hmm. C'est vrai.
Ah, ça, c'est le
Mais
problème.
Ça, c'est après que Krishna s'est montré qui il est. C'est après qu'il a connu, veut dire, la source de tout. C'est là que, veut dire, il est allé se battre, là, tu sais, là, il a vu, il est avec la connaissance et la logique elle a apparu, là, je sais pas, là.
Oui, il a vu la forme universelle, alors si tu vois, là. C'est après avoir vu Krishna te montre qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais, genre. Alors, si t'es encore un peu trop cabochon pour ne pas comprendre, ben, t'as vraiment un problème, là, tu sais. C'est Krishna qui te montre qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais. C'est comme avoir la télévision qui te montre les nouvelles, mais avant même que les nouvelles arrivent. Alors, Krishna, il fait ça avec Arjuna. Il me dit, regarde, là. Tu vois, tous ces soldats-là, il n'y en a pas un qui va rentrer chez eux. À part vous autres, les Pandava, là, tout le monde sont déjà morts. Je les ai déjà tués. Alors, dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset qui dit que Krishna, disons, étant sur le champ de bataille de Kurukshetra, même s'il n'a rien fait, supposément, Krishna, en posant seulement son regard sur les soldats là, ils ont tous tués. Juste en posant son regard.
Mais ça, ça démontre, Prabhu, aussi que Krishna, il s'est dit ça, je les ai déjà tous tués. Alors, il a écrit le scénario. Alors, maintenant, c'est les acteurs à faire la volonté.
Mais c'est ça. Alors, Krishna, il dit, sois juste un instrument dans ma main. C'est ça qu'il dit à Arjuna. Il dit à Arjuna, ne t'occupe pas des réactions, c'est déjà tout décidé d'avance. Alors, sois juste un instrument pour moi. Alors, ça, c'est la conscience de Krishna. Alors, des fois, superficiellement parlant, il peut y avoir raison de douter. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Mais, en prenant justement connaissance des enseignements d'un pur dévot, le pur dévot va éclaircir la voie à suivre. Alors, comme Srila Prabhupada nous a donné ses livres, ses enseignements, ses classes, c'est toujours, disons, on peut dire la même chose dans le sens que C'est la voie de la conscience de Krishna à suivre. C'est juste ça.
Mais il faut être sincère. Il faut être sincère, sinon on n'apprend rien.
Exactement. Alors, Prabhupada, il disait, faut être, il y a deux choses que Prabhupada dit. Pas juste être sincère. Prabhupada disait pas juste, oui, il parlait de sincère, mais il y avait toujours l'autre nuance qui venait avec. Et ça, il disait, faut être sérieux et sincère. Alors, si on est sérieux et sincère, là, c'est la combinaison parfaite. Le sérieux, ça veut dire quoi, ça, être sérieux pour la conscience de Krishna?
Ben, que ta parole va aller avec ton mental, avec ton corps, ton physique, là. Ça veut dire, si tu dis quelque chose, t'es sérieux, tu vas le faire. Quelqu'un qui fait pas quelque chose, ben, il est pas sérieux. Tu sais?
Oui, c'est bon. Alors, j'avais d'autres choses, là.
C'est le comportement aussi, c'est-à-dire être réservé, être humble, austère. Tout ça fait partie du contexte sérieux, c'est-à-dire ne pas être une personne un petit peu légère.
Ouais, prendre la conscience de Krishna au sérieux. Ça veut pas dire être trop sérieux, parce que Prabhupada était, mettons, sérieux, mais aussi il avait ses moments de bon temps à passer avec les dévots, à prendre le prasad et puis discuter. Toutes les promenades, une grande partie des promenades matinales de Prabhupada. Prabhupada est sérieux, oui, mais c'est aussi en même temps, il y a un certain côté léger d'être intime avec les dévots, puis que les dévots peuvent lui poser des questions, puis il répond. Puis ça lui fait plaisir de faire ça chez le Prabhupada. C'était pas juste genre, c'est moi le marteau, puis vous autres, vous êtes les clous, puis laissez-vous taper dessus, ça vous fera pas mal, mais on va taper quand même. C'est pas genre ça. Prabhupada, oui, c'est le devoir. D'un maître spirituel d'être lourd avec les dévots. Mais le maître spirituel est aussi expert à prêcher, adapter le message selon temps, circonstances et individus. Alors, peut-être pour deux dévots qui ont mettons, la même problématique, Prabhupada va dire deux réponses différentes. Dépendant des dévots en question. Alors, c'est ça, par la grâce du maître spirituel, on peut pas demander mieux que d'avoir sa grâce, puis de comprendre la conscience de Krishna par sa grâce, et puis la vie est belle comme ça. Alors, j'aimerais, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Peut dire seulement qu'il a consacré toute sa vie à laisser sa connaissance qu'il a appris à travers tout le sacrifice qu'il a fait, puis c'était juste voué à Krishna. Il y avait rien d'autre. Qui parlait de bouffe, mais c'est toujours Krishna, n'importe quoi. Krishna, c'était le centre de toutes ses actions.
Ouais, exactement. Et n'importe qui venait en contact avec lui, mettons les dévots en particulier, les disciples, là, c'était, tu savais tout de suite, là, il faut que tu parles de Krishna. Il faut que ça tourne autour de Krishna. Ça, c'est automatique. Alors, lui est conscient de Krishna et tout ce qu'il va répondre, ça va te donner une lumière sur Krishna, sur la conscience de Krishna. Et disons, des fois, ça va être vraiment étonnant. Donner un exemple, j'ai déjà raconté ça dans les cours, mais je vais le redire parce que c'est un bel exemple. Prabhupada aimait, quand il était à Los Angeles, il aimait aller prendre une promenade matinale sur le bord de l'océan. Alors, il était entouré, je sais pas moi, 7-8 dévots. Est-ce que vous savez cette anecdote-là? Alors, entouré de dévots, 7-8 dévots, peut-être plus, qui sait. Et là, à un moment donné, il arrête et demande aux dévots, en voyant la mer, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez la mer, les vagues qui arrivent et qui arrivent et se retirent, arrivent et se retirent? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il n'y a pas un dévot qui savait quoi répondre. Il savait qu'il fallait répondre quelque chose qui est conscient de Krishna. Puis personne n'osait donner une réponse. Alors finalement, Prabhupada donne son commentaire et il dit, en voyant les vagues arriver, se retirer, etc., etc., il dit, l'océan, par l'ordre de Krishna, il va pas plus loin que la plage. C'est Krishna qui a dit à l'océan, toi, tu vas pas plus loin que là. Alors, si c'est pas conscient de Krishna, ça, qu'est-ce qui peut être conscient de Krishna? Alors, une personne ordinaire va voir, ben, c'est les vagues. Puis les poètes de ce monde vont faire beaucoup, c'est sûr, ça. Plein de poèmes sur la mer, l'océan, patati patata. En fait, une très belle chanson française de Charles Trenet. Je pense, La mer. Vraiment une belle chanson. Mais ça, c'est l'interprétation matérielle. Mais un pur dévot de Krishna, lui, a une autre interprétation, à savoir voir en relation avec Krishna. Alors, les dévots, surtout on peut dire les dévots qui étaient là personnellement, quand Prabhupada a dit ça, et qu'après, Prabhupada est parti dans une autre ville, voyager autour du monde. Mais ces dévots-là qui vont prendre chanter leur tour sur le bord de la plage, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensaient par après? Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se rappeler ce que Prabhupada avait dit. Alors, ça a l'air insignifiant, mais c'est très, très important. C'est lourd de signification, les paroles d'un pur dévot. Et c'est extraordinaire. Ça rend conscient de Krishna juste comme ça. Comme les Québécois disent, juste sur le piton. Tac! Alors, ça c'est la grâce d'un pur dévot qui... Comme on dit, Omagana Timirandasya, qui ouvre les yeux. Nous qui étions dans les ténèbres de l'ignorance, alors le maître spirituel ouvre les yeux avec le flambeau de la connaissance pour revenir à la connaissance. Alors, il donne la connaissance, mais aussi cette connaissance-là a un pouvoir de chasser tout doute qu'on pourrait avoir quant à la conscience de Krishna. Mais la conscience de Krishna veut dire un comportement conscient de Krishna. Il peut y avoir la philosophie, mais comme on vient de discuter, là, se comporter, disons, avec la conscience de Krishna, c'est facile à dire, mais pas nécessairement aussi facile à faire. Mais, cependant, il faut pas trop être se vouloir plus avancé qu'on ne l'est en réalité. Il faut pas, disons, au lieu de faire un pas en avant, faut pas chercher à faire 10 pas en avant d'un coup si on a à peine à faire un pas en avant. D'habitude, on fait un pas en avant. C'est la façon de marcher, disons pour tout le monde. C'est un pas, un pas, un pas, un pas. Alors, dans la conscience de Krishna, c'est la même chose. Krishna, il voit qu'on est situé à tel niveau, à tel degré dans la conscience de Krishna, et il va nous aider à faire le prochain pas. Et ça, c'est merveilleux. Et ça n'a pas d'importance si le pas de quelqu'un n'est pas le même qu'une autre personne. Parce que tout le monde est différent. Alors, mais c'est la grâce de Krishna d'éclairer un dévot à franchir un pas de plus dans la conscience de Krishna. Et comme Krishna dit, pour ceux qui me servent avec amour et dévotion, constamment, je leur donne l'intelligence par laquelle ils peuvent venir à moi. Alors, le venir à moi, ça, c'est Krishna qui le sait. Et Krishna est toujours plus intelligent que n'importe qui, que n'importe quel dévot. Et il sait exactement, il voit où est-ce qu'on est situé dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'il est situé dans notre cœur. Et dans notre cœur, il voit tout. Il voit tout ce qu'on veut croire et tout ce qu'on ne veut pas croire ni accepter pour le moment. Mais Krishna, il voit tout ça et avec la connaissance, avec l'inspiration, il nous ouvre les yeux pour nous faire prendre conscience de ce que nous manquons quant à la conscience de Krishna. Et ce que nous devrions accepter par rapport à la conscience de Krishna. Alors, Krishna joue des deux côtés. Nous faire accepter ce qui est favorable et nous faire accepter de rejeter le défavorable. Et comme ça, on est béni. Ça, c'est vraiment la grâce de Krishna. Alors, autrement, qu'est-ce qui se passe si Krishna ne nous aide pas de cette façon-là? Qu'est-ce qui va se passer?
Ben, on va être dans un autre chantier, une autre direction.
On peut être dans le chantier et voir tous les panneaux du chantier autour de nous. On les voit, on les lit, mais ne rien comprendre. Alors, c'est comme par exemple aux États-Unis, au Canada, je ne connais pas, mais je ne veux pas mêler de ce qui se passe ici parce que. Mais aux États-Unis, il y a certains groupes qui sont plus catholiques que le pape, qui sont très puritains, et ça date pas d'hier, ça date de l'histoire des États-Unis. Et eux ils voient des choses. Ils ont des commentaires, ils ont une ligne très, très, très arrêtée, très sectaire, très, très obscure sur leur façon de voir les choses. Et ça aboutit au fanatisme. T'es pas capable de comprendre les autres. C'est juste ton point de vue, c'est tout. Juste ça qui compte. Et ça, c'est malheureux. Et c'est des gens qui veulent se faire passer pour des gens religieux. Alors, que ce soit eux autres ou d'autres personnes dans d'autres pays ou avec d'autres religions, le phénomène est le même. Et dans le Ishopanishad de Srila Prabhupada, on parle des dévots néophytes. Une de leurs caractéristiques, c'est de croire que leur religion est meilleure, leur culte religieux est meilleur que celui de tous les autres. Alors, c'est malheureux que ce soit comme ça. Mais ça fait partie de la vie, de l'évolution de certaines personnes qui, tu peux pas dire vraiment qu'ils sont matérialistes à 100%, mais sont, disons, comme Prabhupada décrit dans les Upanishads, des dévots matérialistes. Ce sont des Kanishta Adhikari. C'est écrit comme ça dans les Upanishads de Prabhupada. Alors, et Prabhupada, ce qu'il voulait des dévots, de ses disciples, c'est qu'une fois qu'ils entrent en contact avec la conscience de Krishna, ils ne voulaient pas qu'ils restent néophytes pour longtemps. Ils voulaient qu'ils évoluent et avancent dans la conscience de Krishna. Et ça, Prabhupada voulait ça comme ça. Alors, quand on devient un dévot, c'est quasiment immanquable. Qu'on peut pas tout tout réaliser du jour au lendemain. Alors, on peut réaliser avec les années des choses que certaines choses, on pensait qu'ils avaient bien compris. Mais avec le temps, comme on discute aujourd'hui du temps, l'influence du temps, le temps change la perception des choses, pour un dévot en tout cas, et même pour non-dévot, mais le temps est un facteur qui fait en sorte qu'on évolue et qu'on apprécie les choses avec une certaine maturité, avec le temps. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Vous dites tout à l'heure que pour approcher Krishna, le point vraiment le plus important, comme vous dites souvent, c'est l'amour. Sans amour, on peut pas approcher Krishna. Ça prend l'amour, comme ça on reçoit la grâce de Krishna. Ça, si vous l'avez écrit, là, vous l'avez lu, là. Si quelqu'un veut me rapprocher avec amour ou quelque chose, et ça c'est pour avoir sa grâce. Puis sa grâce nous donne cet état de le voir, d'être plus proche.
Oui, disons, on est des dévots néophytes, là, en passant, là. Mais, disons, l'amour attire l'amour. On peut dire ça comme ça. Alors, si tu fais un pas avec amour, l'autre personne aimée va te rendre l'appareil aussi. C'est du donnant-donnant. Alors, parfois, mettons, des dévots, pas seulement des dévots conscients de Krishna, mais disons des dévots conscients de Dieu, là, qui ont assez d'avancement spirituel et qui vont être généreux de leur état d'âme avec des non-dévots qui au début ne les apprécient pas, ne les comprennent pas, mais parce qu'ils ont cet amour à l'intérieur et c'est inconditionnel, ça finit par se transposer sur les personnes qui leur sont opposées. Alors, on prend par exemple les premiers chrétiens. Il y en a beaucoup qui sont morts martyrs, mais le cumulatif de ces martyrs-là, ça fait poser des questions aux non-dévots. Et les non-dévots, finalement, ont fini par avoir un certain changement de cœur et se convertir en bout de ligne. Là, évidemment, est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Ça, c'est une autre histoire qu'on ne fera pas de commentaires dessus. Mais l'authenticité de la dévotion, ça a un effet de changer une personne qui n'est pas dévotieuse plus que ça. Alors, est-ce que on a un exemple dans la conscience de Krishna de cela?
J'ai pas compris. Si on a quoi, j'ai ça.
Si on peut te donner un exemple dans la philosophie de la conscience de Krishna, dans ce que nous connaissons de la conscience de Krishna, justement sur l'effet transformateur de la dévotion sur une autre personne. Est-ce qu'il y a des exemples?
Mais les deux frères qui se saoulaient puis allaient se battre dans un village, tout ça. Quand ils ont reçu la grâce de Krishna, ben, ils ont changé complètement.
Oui,
ils ont fini ben, leur... J'oublie les noms des...
Jagai Madai.
Oui.
Alors, il y en a un qui a frappé Seigneur Nityananda à la tête. Alors, Seigneur Chaitanya s'est amené sur le champ. Il était prêt à les expédier dans un autre monde. Et Seigneur Nityananda dit non, 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 laisse faire parce que sinon, qu'est-ce que le monde va penser de ta mission? Alors, par la grâce de Gaur Nithai, ils ont été libérés. Mais le Seigneur Chaitanya a posé des conditions, par exemple, que le Seigneur Chaitanya était prêt à les accepter à condition de qu'ils ne retombent plus dans leurs mauvaises habitudes. Pas de boisson, pas de vol, pas de ci, pas de ça. Il fallait qu'ils arrêtent tout ça. Le Seigneur Chaitanya les a acceptés comme disciples. Effectivement, ils ont abandonné toutes ces mauvaises habitudes et ils sont devenus disciples du Seigneur Chaitanya. Un autre exemple. Haridas Thakur est la prostituée qui avait été envoyée par Nawab Hussain Shah. Alors, la prostituée est venue, puis elle voulait séduire Haridas Thakur, mais Haridas Thakur l'a eu dans le tournant. Il lui a dit, je vais être à toi, t'inquiète pas. Il faut que je finisse mes tours. C'est juste que lui, il chantait 24 heures par jour, tu sais, je veux dire. Il n'y aurait jamais le temps pour être avec elle, mais elle est restée là pareil. À force d'écouter le chant pur des saints noms de Haridas Thakur, elle a eu un changement de cœur. Et finalement, elle a avoué à Haridas Thakur c'est quoi la raison de sa visite au départ. Puis Haridas Thakur, lui, c'est sûr qu'il avait tout compris ça d'avance, là. Et c'est un pur dévot, c'est le Namacharya, c'est une incarnation du Seigneur Brahma avec qui, et c'est, comment on peut dire, comment tu vas aller influencer Haridas Thakur? T'es rien du tout à côté, là. Alors, il lui a finalement dit de s'asseoir là, rester là, et chanter Hare Krishna devant la plante Tulasi. Puis il en a fait une dévote. Ça, c'est le pouvoir transformateur de la pure dévotion chez un pur dévot. Que le pur dévot est tellement, tellement convaincu, mais vit tellement la conscience de Krishna avec félicité que il faut qu'il donne la conscience de Krishna. Alors, le dévot de Krishna est un être libéré. Libéré de l'influence des trois gunas. Puis il veut donner cette félicité de la conscience de Krishna à son entourage. Comment ça va se présenter? Qui va venir? Il va être inspiré pour justement propager la conscience de Krishna. Et ça aussi, c'est la beauté de la mission de Srila Prabhupada. Le Prabhupada est allé partout dans le monde, et partout où il a été, il y a des dévots qui sont apparus. Et là, je ne sais pas si vous avez lu il y a quelques jours de ça, sur Dandavat. Il y a eu une consigne générale de données, en tout cas, excusez-moi, c'est pas consigne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été écrit à ça, qui disait que, en Iran, ils sont en train de se battre, là, Israël et Iran, et il disait, en Iran, il y a beaucoup de dévots concernant Krishna. Et en Israël aussi, il y a beaucoup de dévots concernant Krishna. Et là, la consigne disait, bon, parmi les dévots, Iran et Israël, il n'y a pas eu d'accident à date, là. Il n'y a personne qui est blessé, il n'y a pas de mauvaises choses qui sont arrivées aux dévots. Mais l'idée, c'est La conscience de Krishna est potentielle tout partout. Et quand Prabhupada est allé justement à Téhéran, ben, il y a un dévot qui a été fait. Ce dévot-là, il s'appelle Atreya Rishi. C'est un dévot d'Iran, originalement. Et il est GBC, en tout cas, s'il ne l'est pas encore, il était GBC dans le temps de Prabhupada pour justement le Moyen-Orient ou en tout cas, whatever. Alors, il y a des dévots tout partout et le pur dévot, c'est les faire ressortir. Ça, c'est la grâce de Krishna, la grâce d'un grand dévot comme Srila Prabhupada. Et c'est Bhaktivinoda Thakur qui disait comment on reconnaît un grand dévot, c'est qu'il justement il y a un grand nombre de dévots qui viennent à cause du dévot en question, qui recrutent, convertit beaucoup de monde à la conscience de Krishna. Simplement. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben, le grand dévot fait partie du script que Krishna a écrit pour que ça... Il l'a mis en scène et tout. Ça s'est déroulé de selon sa volonté. Hein. C'est notre... comment dire, rien qui bouge sans la volonté de Krishna. Là, c'est, il l'avait déjà su.
Qu'est-ce qu'elle espérait. C'est ça. Alors... avant que Prabhupada vienne, c'était déjà prédit, il va y avoir une grande personnalité qui va venir et qui va, disons, répandre la conscience de Krishna à travers le monde. Puis ça, ben, c'était nul autre que Srila Prabhupada qui a été mis en pouvoir. Ce qu'on appelle un Shaktyavesh Avatar, c'est-à-dire un être qui est mis en pouvoir pour accomplir une mission particulière lié à la conscience de Krishna. OK. Alors, je vais relire le premier paragraphe qu'on a lu aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Rencontrer un pur bhakta est une façon de parler dans une certaine mesure. À défaut d'une rencontre physique, comme c'est le cas la majorité du temps pour la majorité des gens, cela veut dire écouter les enseignements du pur bhakta. C'est l'écoute qui fait toute la différence, s'il y a contact, rencontre, association ou pas. Alors c'est ça. Comme on a dit au dernier cours, comme je vous avais dit, il y a un garçon, un dévot du temple, qui est venu ici, chez moi, pour aider à faire les travaux de rénovation, mais c'est un garçon qui a beaucoup de questions. Et il posait la question, quel conseil je pourrais donner pour les dévots de deuxième génération? Alors moi, j'ai répondu, ben, chanter avec Krishna. Parce que Prabhupada a dit ça aussi, là. Mais en fait, après, j'ai repensé et je me suis dit, ce qui est très important, c'est justement d'étudier le plus profondément possible Prabhupada. Étudier Prabhupada. S'associer avec Prabhupada, ses enseignements. Je pense que c'est parce que Prabhupada n'est pas là physiquement en personne, mais ses enseignements sont là. Et je peux pas concevoir autre chose. Si quelqu'un veut l'association de Prabhupada, ben il faut qu'il étudie les enseignements de Prabhupada. Tu peux pas faire le tour de ça. Et ce matin, parce que j'écris toujours, hein, pas ça. Là, j'écris sur l'Upadeshamrita, mantra 2. Et là-dedans, il y avait un passage où Prabhupada dit de ne rien concocter, de ne rien inventer. simplement suivre dans les traces des acharyas, des Goswami. Et là, après, Prabhupada dit, sinon, tout va être gâché. C'est Prabhupada qui dit ça. Et Prabhupada le dit plus d'une fois, de rien inventer, juste suivre dans les traces des acharyas. Pas inventer des standards qu'on pense que ça va être bon, mais c'est le temps qui va déterminer justement si c'est bon ou moins bon ou pas bon du tout. Alors, faut juste suivre la ligne qui est déjà tracée d'avance par les acharyas. Et ça, c'est important. Alors, si on veut essayer d'inventer quelque chose, ben ça vaut ce que ça vaut. Si ça passe pas le test du temps, ça veut dire que ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas la peine.
Mais utiliser d'autres mots pour dire la même chose, est-ce que c'est la même, c'est dans le même état?
Oui, ça va ensemble, ça. Oui, parce qu'il faut adapter tant circonstances, individus. Tu sais, comme par exemple, Prabhupada a prêché dans sa langue maternelle, là, mais sa vraie mission, c'est en anglais que ça se passait. Alors, nous, on est francophones, même si on est bilingue, puis on fait des cours, puis on imprime des livres en français. Et des fois, il faut que tu fasses, une adaptation aux expressions anglaises, parce que faut que tu le mettes dans la langue de Molière, de la façon que c'est dit en français, c'est tout. Alors, ça ne va pas matcher 100% mot pour mot de l'anglais au français, mais le message voulu, c'est la même chose. Alors, une certaine forme d'adaptation qui est nécessaire. Et puis, c'est aussi simple que ça, non? Et c'est pas toujours facile en passant d'arriver pile. Mais c'est comme ça. Selon les individus, faut adapter. Mais comment on peut dire? Le sens ne doit pas être perdu. C'est ça qui est important. Les mots peuvent différer un petit peu, mais pas le sens. Le sens, ça doit être la même chose. Tu sais? Alors, tu sais, par exemple, si tu parles de réincarnation, juste le mot réincarnation, il n'y a pas juste ce mot-là pour l'expliquer. En français, il y a le mot métempsychose, imagine. Un grand mot comme ça. Mais c'est jugé synonyme de réincarnation. Alors, je sais qu'en France, il y avait une conférence de Prabhupada à la salle Pléiel, puis le titre de la conférence était la métempsychose. Attends une minute. Mythe ou réalité? Ça, c'était pour le public français. Que les Français sont très intellectuels. Alors, ils avaient choisi de leur présenter ça comme le titre de la conférence de Prabhupada. Alors, évidemment, quand Prabhupada c'était la salle théâtre. Prabhupada était sur la scène, là. C'était comme une pièce de théâtre. Prabhupada est sur la scène, puis les gens sont dans les sièges, d'une capacité d'à peu près 4000 sièges, là. Alors, une fois que Prabhupada commence sa classe, là, il n'y a pas un seul dévot qui sait qu'est-ce que Prabhupada va dire d'avance. Tu sais, c'est pas comme une classe de Bhagavad Gita, là, mettons, organisée d'avance par les dévots. Ah, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 7, verset 1. Puis un tel dévot va parler sûr. Pas comme ça que ça se passe quand Prabhupada vient faire une classe et tu sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Tu peux mettre un titre comme tu veux pour attirer le monde, mais Prabhupada dira bien ce qu'il voudra bien dire. Et il y avait une classe à Paris, Prabhupada avait pris la Bible. Il avait commencé avec la Bible. Et il avait cité, au début était le Verbe. Il y a un passage de la Bible, là. Au début était le Verbe, puis une ou deux lignes, trois lignes après, qu'est-ce que ça dit, là? Puis sa classe était là-dessus. Alors, Prabhupada n'était pas limité juste à la Bhagavad Gita. Si ça faisait l'affaire de citer ailleurs, en général, il ne faisait pas ça, souvent, mais à Paris, il le fait comme ça. Alors, c'est la grâce de Prabhupada, la divine grâce, il peut faire ce qu'il veut.
Prabhupada disait aussi qu'il voulait relire qu'est-ce que il avait dit parce que lui-même il savait pas. Ça veut dire qu'il était un vaisseau pour la volonté de Krishna. Ça veut dire qu'il était utilisé comme un parleur. Je sais pas, là, c'est peut-être pas une bonne exemple, là, mais la volonté se faisait devant lui parce qu'il était pur. Alors, il était dans la même fréquence que le divin. Alors, c'était la communication Wi-Fi était parfaite. Il n'y avait pas de mauvaise fréquence, là.
Oui,
C'est clair.
Prabhupada aimait lire ses livres, mais il n'y avait aucune teinte de faux égo là-dedans. Tu sais, je prends plaisir parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'était pas ça, là. Prabhupada disait aussi que ses livres, c'était une dictée de Krishna. Alors, Prabhupada était l'instrument. Il écrit les livres, et puis c'est vraiment conscient de Krishna. Il y a aucune faute dans les livres de Prabhupada. Il n'y a aucune imperfection. Alors, c'est pourquoi c'est très important que justement ça reste comme ça. De ne pas ajouter quelque chose au message. Garde ça tel quel. C'est bien beau. Ça va être parfait. Comme Prabhupada a écrit justement Bhagavad Gita telle qu'elle est. Alors, Prabhupada disait, si on a un mérite, c'est écrit à la fin, à l'endos de la Bhagavad Gita. En tout cas, là, je l'ai dans les mains ici, c'est en anglais, mais je pense que c'est en français. Prabhupada il dit, justement, si on a un mérite quelconque, que ce soit d'avoir, justement, donné la Bhagavad Gita telle qu'elle est, sans aucune interprétation. Ça, c'est le mérite que Prabhupada voulait. C'était pas un agrandissement personnel, loin de là. C'était pas ça du tout, du tout. Le pur dévot de Krishna comment on peut dire, n'a rien, je veux dire, ça paraît un peu vulgaire, je sais pas jusqu'à quel point c'est vulgaire, mais le pur dévot, n'a rien à cirer. C'est-tu vulgaire, ça, quand on dit ça? Rien à cirer ou c'est correct, ça passe? En tout cas,
Oui, rien à faire, n'a rien à faire.
n'a rien à faire ou rien à cirer avec le faux prestige. Lui, il est débarrassé de tout ça. Il sait que ça vient avec, c'est pour le corps. Quand le corps est fini, c'est terminé. Le faux prestige, ça va. S'en va dans la tombe avec le corps, puis, ou brûle avec le corps. Ça n'a aucune importance. Alors, c'est ça. Alors, Prabhupada, quand il lisait ses propres livres. Il aimait écouter ses propres livres lus par ses disciples. Alors, beaucoup de classes de Prabhupada, Prabhupada écoute les passages des livres, puis ensuite fait des commentaires. Au fur et à mesure de ce qui est lu de ces livres. Ça, c'est parfait pour nous. C'est extraordinaire parce que c'est une lumière éclairée davantage par une autre lumière qui sont les commentaires de Śrīla Prabhupāda. Alors, c'est merveilleux. Il n'y a pas de fin. Alors,
Pour que le
extraordinaire.
dynamo marche, ça prend les Mahamantras.
Oui.
Pas mieux, plus clair et tout ça, là, c'est le wiper, là. Ça se fait voir plus clair parce que tu purifies, ils disent, ça purifie le corps, la poussière. C'est vrai, ça enlève la poussière tranquillement, là. Il y en a des poussières accumulées, là, des milliers d'années, là. Mais juste en comprendre un petit peu, ça change le portrait. Alors, t'es motivé à continuer parce que tu vois que le goût change avec le temps, mais c'est toujours la même chose. C'est juste notre état de conscience qui change.
Oui, exactement. Notre perception change à mesure qu'on se purifie. Et ça, c'est la grâce de Krishna. On ne demande pas mieux que ça par la grâce de
Ouais.
Krishna. OK. Est-ce que d'autres questions, commentaires, ce qu'on a lu aujourd'hui? OK, alors. Bon, alors on va continuer à lire, si vous n'avez pas d'objection, à la page 143, ligne 37. Est-ce que Virginie, tu voudrais lire?
Oui, avec Krishna, ligne 37.
143.
OK. Nous vous présentons l'introduction du livre de Srila Prabhupada intitulé L'enseignement de Sri Chaitanya, où l'on trouve entre autres des notions fort importantes quant à la manière dont l'énergie matérielle garde les âmes conditionnées sous son emprise. Ceci peut très bien s'inscrire en tant que commentaire au verset du Srimad Bhagavatam 2.6.20 que nous venons d'étudier. Maya se déploie de bien des façons, et dans l'univers matériel, c'est la forme féminine qui représente sa meilleure arme d'asservissement. On capture l'éléphant de jungle grâce à une femelle qui, dressée pour cela, l'entraîne dans un piège. Il va de soi que ces distinctions mâle et femelle ne valent que pour la vêture extérieure qu'est le corps. Nous sommes tous en fait des serviteurs de Krishna, mais l'attrait qu'exercent les femmes trop séduisantes nous asservit de ces lourdes chaînes. La vie sexuelle immodérée nous livre pieds et poings liés à Maya. Le Seigneur Chaitanya renonça à cette Maya à l'âge de 24 ans. Et ce, malgré les 16 ans de son épouse et les 70 ans de sa mère, lui qui était le dernier représentant mâle de la famille. Bien qu'il fût un brahmane, donc sans richesse, il embrassa l'ordre du renoncement, le sannyasa, sans se préoccuper outre mesure de cette maya qu'incarne épouse et mère. Celui qui aspire à devenir parfaitement conscient de Krishna doit certes se délivrer des fers de Maya, et s'il doit vivre à son contact, façonner son existence de telle sorte qu'il puisse à tout moment décliner ses avances illusoires. On comptait d'ailleurs de nombreux chefs de famille parmi les plus proches dévots du Seigneur Chaitanya, mais il bannit Haridas le jeune, un de ses dévots renoncés, et un important chanteur de kirtan qui avait laissé paraître un regard de concupiscence pour une jeune femme. Tu vis avec moi dans l'ordre du renoncement et voilà que tu poses un regard lascif sur une femme. Haridas le jeune se suicida plus tard en proie au désespoir d'être séparé de Chaitanya. Lorsque d'autres dévots le prièrent de pardonner à Haridas, le Seigneur répondit: Allez vivre avec lui et pardonnez-lui. Moi, je resterai seule. Et quand on lui apprit que Haridas s'était suicidé, le Seigneur Chaitanya, lui qui a conscience de tout, déclara: Voilà qui est très bien. Par contre, lorsqu'un dévot qui avait eu le don de lui plaire l'informa que son épouse était enceinte, Chaitanya demanda qu'on donne à l'enfant un nom propice. Il ne condamnait donc pas ceux qui avait des rapports sexuels dans le cadre du mariage, mais il était aussi rude que la foudre envers les renonçants qui trichaient en buvant sous l'eau lors de leurs ablutions par un jour de jeûne. Le Chaitanya Charita nous révèle donc comment fit Chaitanya pour enseigner à tous l'art de devenir immortel, art également transmis par Krishna et tous les grands réformateurs spirituels, mortifiés de voir les gens chercher à prolonger leur existence mortelle, au lieu de faire en sorte que leur prochaine vie en soit une d'immortalité. De plus, nous vous présentons une classe de Srila Prabhupada sur le Srimad Bhagavatam 7.6.5 daté le 21 juin 1976 à Toronto.
Ok, on va s'arrêter là, merci.
Ouais, c'était aujourd'hui.
Hein?
C'était aujourd'hui. C'était le 21 juin, aujourd'hui on est le 21 juin, c'était le 21 juin.
Ben oui, alors ça...
Et aujourd'hui, il y a 76, ça fait combien ça? Ça fait 52 ans, c'est ça? 52, je sais plus.
On est en 2025.
Ça fait... Ouais, donc ça...
Il manque juste un an, là.
Ouais.
Pour faire...
50.
49.
50, voilà. 49 ans.
49 ans.
Jour pour jour.
Jour pour jour, justement.
Ah, c'est ça.
Wow. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce qu'on vient de lire?
Moi, j'ai un commentaire.
Ouais.
C'est sûr que, voilà, je commence un peu plus à lire aussi sur le Seigneur Chaitanya, donc apprendre à le connaître. Et c'est vrai que j'avais déjà lu un peu ce qui s'était passé avec ce dévot, puis c'est quand même dur. Comme, on peut pas raconter ça, ce passe-temps à n'importe qui, parce que c'est voilà qui est très bien quand on lui annonce le suicide. C'est voilà, ça peut être difficile à quand même voilà, d'un point de vue extérieur, si on n'est pas un dévot, qu'on comprend pas un peu voilà.
C'est ça. Ouais. Mais il y a quand même un message subtil dans ce qu'on vient de lire, dans le sens que en surface, la forme féminine, c'est dit ici, c'est la forme féminine qui représente sa meilleure arme de servissement. Ça, à Maya, là. Et pratiquement parlant, c'est pas juste entre les êtres humains, là. C'est toutes les formes de vie. Il y a toujours le facteur femelle.
L'attraction.
L'attraction. Et c'est très difficile. C'est pratiquement insurmontable de... Ce matin, j'étais en train de penser à Radha Kund. Radha Kund, c'est en Inde. C'est un lieu saint. C'est le lac de Srimati Radharani. Et Prabhupada disait, parce qu'il y a des dévots qui vivent à Vrindavan, à Radha Kund. Il n'y a pas beaucoup de dévots de ISKCON. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que j'en ai perdu des bouts parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en Inde et puis... Et Prabhupada, il y avait un dévot qui était sérieusement malade et qui, d'après le diagnostic, il restait pas grand temps à vivre. Plutôt quelques mois, quelque chose. Alors, il avait décidé d'aller habiter ou résider à Radha Kund. Et Prabhupada avait fait un commentaire à savoir si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, ben vas-y et puis chante tout le temps. Puis il disait il faut être avancé pour habiter à Radha Kund, sinon et chanter tout le temps. C'est deux choses là. Habiter là. Et chanter continuellement, bon, peu importe le mantra, ça va être surtout le mantra. Et Prabhupada avait ajouté, il avait dit, autrement, on va penser aux femmes et à l'argent. Si on n'est pas assez avancé. Alors, fin du commentaire. Alors, il n'y a pas juste Radha Kund pour être comme ça, là. Alors, imaginez, vous allez à Radha Kund, c'est l'endroit le plus saint de l'univers. C'est Radha Kund. Puis Prabhupada fait un commentaire comme ça. Imaginez si le commentaire ne s'applique pas ailleurs aussi. Encore plus. Alors, c'est comme quand j'étais en Allemagne, il y a, comment on peut dire, en anglais, ils disent « red light », un quartier pour la prostitution. Là. Alors, qu'est-ce que je connais de l'Allemagne? Moi, j'avais 19 ans à l'époque, 19-20 ans. Ça, c'était en 71. Et à un moment, disons, il y avait Hans Adutta, qui était le président du temple, et lui, il est de là-bas. Alors, lui connaissait la place. Moi, c'est le genre de petit dévot qui suit la gang, qui suit le groupe, puis off we go, on va chanter. Alors, un de ces bons samedis soirs, on est allé dans le quartier, un quartier comme ça, à Hambourg. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, pour ceux qui veulent voir, vont voir. Pour ceux qui n'ont rien à voir, ils n'auront rien à voir non plus. C'est comme ça que ça se passe pour les défauts. En général, alors on a été. On a chanté, puis on est revenu. Puis en ce qui me concerne, j'ai jamais été affecté plus qu'il faut de ça. Et quand j'étais à Paris, c'était la même chose. Dans le sens qu'on allait chanter à Pigalle. Je sais pas si vous connaissez Paris, là. Pigalle, c'est la place, le Moulin Rouge et compagnie. C'est exactement pour ça. Et Prabhupada parle justement, quand il fait des classes à Paris ou ailleurs, il va mentionner justement à Paris qu'il y a justement des endroits où des gens de 70 ans et plus payent. Prabhupada dit, paye $50 pour aller s'asseoir là, pour justement voir le spectacle. Et etc., etc., là. Bon. Alors, la forme féminine, elle est partout. Et il y en a plus même que la forme masculine. Et c'est pas si facile que ça à transcender. À moins, justement, d'avoir la grâce de Krishna, d'avoir la connaissance spirituelle, puis de voir plus loin que la forme externe. Alors, on revient encore avec le même exemple de tantôt. Haridas Thakur et la prostituée. Alors, une vient pour le faire tomber, puis l'autre, lui, il est là, mais il va pas tomber. Au contraire, il va élever la prostituée au niveau spirituel, parce que lui, il la voit déjà d'un point de vue spirituel en partant, dès le départ. Alors, c'est ça, la conscience de Krishna, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce n'est pas, disons, pris pour acquis au départ parce que quelqu'un se dit ou se veut conscient de Krishna. Donc, si quelqu'un dit, « Ah, moi, je suis un dévot de Krishna. »« Ah oui, tu es un dévot de Krishna. » On va bien voir si tu es un dévot de Krishna. Mais ça, c'est Krishna qui voit. Krishna voit dans le cœur. Et là, il voit, oh, soit les forces, soit les faiblesses. Et puis là, ben, avec le temps, les circonstances, ça se déploieront de telle ou telle façon. Puis là, le dévot verra de par lui-même à quel niveau il est situé. Et ça, c'est la réalité. Alors, c'est quoi le standard pour ne plus être disons, jamais dérangé par toutes les formes féminines. Disons, pour ne pas dire par toutes les femmes. C'est quoi la formule? Il y a une petite formule magique pour ça. Chanakya Pandit qui dit, celui qui peut voir toutes les femmes comme sa mère est un homme de connaissance. Alors, il y a d'autres choses qu'il dit, là. Voir la propriété d'autrui comme une ordure est un homme de connaissance. Alors, de voir les femmes comme une mère. Et ça, c'est le point de vue des Écritures védiques. C'est le point de vue de Krishna qui a créé les hommes et les femmes. Alors, si un dévot arrive à ce niveau-là, il voit une femme, il voit une mère. Et c'est expliqué aussi que c'est pour tous les âges. C'est pas n'importe, c'est pour tous les âges. Même si c'est une fillette, là, 7-8 ans, elle est considérée, elle doit être considérée comme une mère. Alors, si quelqu'un peut avoir cette réalisation-là, là, on peut dire qu'il est situé dans la connaissance selon Chanakya Pandit. Alors là, c'est à tous les hommes de ce monde de voir s'ils passent le test ou pas. Alors, passer le test, est-ce que quelqu'un va vous donner une feuille et un crayon, vous allez cocher. J'ai pas passé le test. Cochez, s'il vous plaît. Personne ne va faire ça. Mais c'est dans votre cœur que ça va se passer. Le test, il est dans le cœur, dans la vision. Et si vous arrivez à ce stade, là, je parle pour les hommes, là, et c'est l'effet contraire aussi, ça marche. Parce que pour tous les hommes, de voir une femme comme sa mère, comme une mère, pas comme sa mère biologique, mais comme une mère, et vice-versa. Toutes les femmes voient un homme comme, le mot en sanskrit, c'est pita. Pita veut dire un père. Ça joue dans les deux sens. C'est un indicatif de connaissance. Alors, si quelqu'un arrive à ce niveau-là de perception, il devient tranquille et n'est pas sujet à tout bout de champ à Miss Personnalité 2025 vient de passer, il hey, faut que je la regarde celle-là, etc., etc. Non, il faut voir d'un point de vue spirituel, comme la Bhagavad Gita l'enseigne, à savoir celui qui... c'est dans la Bhagavad Gita. Sama Sarveshu Bhuteshu, chapitre 18, verset 54. De voir tous les êtres vivants, justement, comme des âmes spirituelles. Alors, le corps, comme Prabhupada l'a souvent dit, c'est comme un vêtement. Mais à l'intérieur du vêtement, il y a l'âme spirituelle. Alors, c'est expliqué aussi pour les sannyas, les swamis, qu'ils ne devraient pas prendre l'ordre du renoncement s'ils ne sont pas arrivés à l'étape de ne pas faire de différence entre hommes et femmes ou mâles et femelles. Parce que dans un corps de l'un ou dans le corps de l'autre, c'est une âme spirituelle. Ça, c'est les enseignements de Srila Prabhupada. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est surmonter l'énergie matérielle. Ça, c'est d'être au-dessus. Pour pouvoir ni homme ni femme comme une pierre, comme de l'or. C'est qu'ils n'ont plus de la même valeur. C'est surmonter cette illusion, cette vérité temporelle dans laquelle on est pour arriver à cet état-là d'égalité, de neutre. C'est du travail.
Ouais. Ça vient avec le temps. Ça ne peut pas faire autrement, c'est avec le temps, c'est une grâce de Krishna. Et à force d'écouter, ben ça a un effet de purifier le cœur. Et ça c'en est une des purifications, disons, visées ou visables, justement, c'est de voir l'âme spirituelle avant de voir le corps.
Oui. Et c'est valable pour aussi notre relation avec les animaux et les végétaux, parce que on a trop tendance à considérer que c'est là pour qu'on puisse en user, enfin, pas moi, mais la façon dont le monde va aujourd'hui avec le non-respect de la vie, en fait, de la présence de l'âme dans chaque être vivant, c'est dramatique. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que ça dépasse le côté relationnel humain. C'est que les animaux aussi, on n'a pas conscience. On veut, en fait, non. Ils veulent dire que les animaux n'ont pas de... C'est plus facile. Comme ça, on peut massacrer et faire tout ce qu'on veut. C'est beaucoup plus facile.
Exactement. C'est une excuse.
Ben voilà.
C'est
Bonne
une
excuse.
excuse pour couvrir
Ben, c'est pareil pour les arbres.
l'abattage animal. En ce qui concerne les arbres,
C'est
c'est
une
comme
catastrophe.
il y a une catastrophe, disons, plus ou moins évitable. Et comme par exemple, à un moment donné, dans les années 70, ils ont Prabhupada, en tout cas, le mouvement. Ils ont voulu imprimer 1 million d'exemplaires de la Bhagavad Gita. Alors, le papier pour faire 1 million d'exemplaires de la Bhagavad Gita était transporté par train. Il y a plusieurs wagons juste pour transporter le papier pour faire la Bhagavad Gita. Alors ça veut dire couper des arbres, là. Papier,
Oui.
ça descend pas du ciel spontanément, là. Mais Prabhupada avait expliqué que les arbres qui ont été coupés pour faire ce papier-là,
Ils sont bénis.
ils ont une forme d'avancement spirituel pour ça.
Vous avez vu la quantité, ne serait-ce que des publicités qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres? Nous, en
Oui,
France, ça continue encore. Et ici,
ça en
ça fait,
est.
commence à s'arrêter. Ça fait des décennies que c'est comme ça. On nous bourre un paquet de papier inutile. Donc, en fait, oui, moi, ouais, je valide. Oui, abattons des arbres pour produire des livres sains. Il n'y a pas de souci. Mais pas pour ce qu'on en fait là, en fait. C'est pareil pour le prachat. C'est pareil pour tout.
Exactement. Si Krishna est au centre, ça peut passer. Si Krishna n'est pas au centre, c'est très, comment on peut dire, pas le bon mot, mais questionnable. Voilà. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.